Bienvenue dans ton Yann et Frank. Qu'est-ce que le courage en politique? Selon Bono Marchand, ce serait d'abandonner le troisième lien. Mais pour vous, c'est quoi le courage en politique? On commence le show à l'instant. Sir Frank, yes, la sir. Victime du jour, est-ce
ben
qu'elle
oui,
est prête?
Ben oui, écoute, j'en ai deux.
On a deux, OK.
J'ai deux candidats aujourd'hui. Il faut dire que j'ai vraiment...
Est-ce que CBC est un candidat encore?
Non, quand même, j'ai pas pris de... ils sont pas candidats aujourd'hui. Puis je vais être franc avec vous autres, j'ai pas cherché beaucoup. Fait que j'en ai quand même deux. Ce qui est quand même... ce qui est quand même pas rien, pareil. J'ai une conseillère en, je sais pas comment on traduirait ça, le mental health counselor, une travailleuse sociale. Je sais pas trop.
Je pense pas que ce soit psychologue, là, parce que.
Ouais. Ben, c'est ça, sinon j'imagine ça aurait été écrit psychologue. Là. Donc, psychologist. Fait que là, tu sais, j'imagine que ça va être. Ça doit être le genre de travailleuse sociale. C'est une travailleuse sociale américaine qui nous dit que perdre du poids, c'est fatphobique.
Hein? OK, ouais. OK, attends un peu.
There's so much potential for beauty and for devastation.
OK, perdre du poids, c'est être grossophobe.
Exactement. Et là, l'extrait est quand même... C'est une vidéo que la fille a faite qui dure à peu près 2 minutes, fait qu'on n'écoutera pas ça au complet, là. Mais dans laquelle elle dit « J'exclus si vous avez une maladie puis des médicaments vous font perdre du poids. J'exclus si vous vous entraînez et que accidentellement, la conséquence, c'est que vous perdez du poids. Mais si vous faites ça volontairement... » Non, c'est pas des jokes, là. Fait que je vais vous le mettre à l'écran. On y va.
Another great question. This person was asking if there is any time in which intentional weight loss is not fatphobic. I'm going to say 99.9% of the times, if you are intentionally losing weight, it is fatphobic. I'm leaving that point, little 0.1%, in case I am truly, truly wrong, but
in case.
I don't think I am. Here's the reason why. I'm not saying if you actually...
I don't think I am, man. T'es dans le champ solide, ma belle.
Et là, elle s'explique après, elle dit ce que je t'ai dit, là. Ouais, j'exclus si vous avez une maladie ou mettons que vous vous entraînez pour être plus en forme et que accidentellement vous perdez du poids, je vais vous exclure. Mais mettons que vous allez au gym en vous disant « j'ai un 20 livres à perdre », ça, c'est transphobique. J'ai curieux de savoir ce que...
Transphobique, c'est pas trans, Frank, sacrament.
Fatphobique.
Les trans, c'est des gars qui changent en filles. C'est pas des gros trans. De quoi tu parles? C'est grossophobe.
Je sais pas pourquoi. Ça doit être ça que j'avais dans la tête. C'est fatphobique, excuse. Grossophobe, merci pour la... Ça va pas faire plaisir aux amants de la langue française. J'ai curieux de savoir. Faudrait que tu demandes à Pascal ce qu'il en pense de ça demain dans le live du matin du motivateur. Mais écoute, je l'ai trouvé quand même assez spécial, celle-là. Donc, les gens, mais dans le fond, les gens sont fatphobiques par rapport à eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre.
T'es-tu vraiment en train de psychanalyser ça, toi, là?
Ben, je me dis, c'est quand même une mental health counselor. Là. C'est pas. c'est pas une fille qui vend de la limonade sur le bord de la rue. Là. C'est quelqu'un qui est formé, en tout cas, de ce qu'elle prétend. C'est un peu spécial.
On fait affaire avec une vraie experte.
Oui, c'est ça, une vraie experte. Fait que les gens, vous pouvez nous dire ça. Là,
c'est
si
du trolling.
Allez,
non, sérieusement, c'est du trolling. T'essayes de dire l'affaire la plus débile qu'il n'y a pas pour avoir des likes. Là. Je veux dire, tu peux pas dire ça suite à des études puis à des grandes analyses. Là.
Ben écoute, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui s'inscrivent dans des gyms parce qu'ils ont été shamés par du monde de leur entourage ou des trucs de même, je le croirais. Mais de là à prétendre que c'est 99.9% du fat-phobishing, je pense qu'il faut se calmer les nerfs un peu.
À bol, gros trans. Bon.
Ouais. Écoute, je peux te mentionner quand même le deuxième candidat parce que je le trouve assez solide, merci. Un couple se venge contre Airbnb en laissant les robinets ouverts pendant 25 jours. C'est une histoire qui est assez capotée, là. C'est raconté par le très sérieux journal de Montréal.
Il voulait faire chier la personne qui les a loués.
Ouais, ouais, ben c'est ça. Le bout là-dedans, c'est qu'il y a le côté, entre guillemets, super neutre et objectif du média qui rapporte la nouvelle pour se venger contre Airbnb. Non, non. C'est pour se venger contre la personne qui loue sur Airbnb, mais c'est plus vendeur de mettre ça de même dans le titre. Et là, évidemment, comme tous les trucs un peu clickbait de Québécois, on te laisse penser que ça se passe ici, mais en réalité, ça se passe à Séoul. Et voici ce qu'on nous dit. Un incapable d'annuler sa réservation sur Airbnb, un couple de voyageurs se serait vengé sur le propriétaire d'une villa à Séoul en laissant les lumières sur les appareils électroniques et les robinets ouverts durant 25 jours. Au total, le couple originaire de Chine aurait gaspillé plus de 120 000 litres d'eau durant son séjour pour donner une leçon au propriétaire après qu'il ait refusé d'annuler leur réservation, a rapporté South Morning China Post lundi. Hey, bref, du monde vraiment intelligent.
J'ai fait de la location Airbnb pendant un bout avant que la mafia du Québec commence à changer les règlements, là. Sérieusement, les politiques d'annulation sont extrêmement claires. Puis moi, j'avais une politique d'annulation stricte. Tu sais, je voulais pas me faire chier. Là. J'avais d'autres choses à faire dans ma vie que me faire chier avec quelqu'un qui annulait de dernière minute. Fait que si t'annulais 14 jours avant, je pense, de mémoire, là, t'étais pas remboursé. Fait que mais c'est l'affaire, c'est quand tu réservais notre affaire, c'était bien écrit. Là. Politique d'annulation stricte, 14 jours avant, pas de remboursement, rien, tu sais. Fait que Airbnb, quand j'active cette option-là, ce qu'ils me disent, ils m'envoient un message. Ils disent « Comprenez que les gens qui activent cette option-là, en général, vont avoir des revenus plus faibles. »
Parce oui, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir plus de flexibilité.
Exactement, parce que généralement, tu n'es pas capable de charger aussi cher quand tu as une politique d'annulation stricte. Moi, dans mon choix, c'était « Non, non, je m'en sac. J'aurais peut-être un peu moins de revenus, mais ça va être stiff. Je ne veux pas te faire, je veux pas me faire chier. C'est pas un hôtel, là. Tout de quoi de simple. » Tu réserves, tu payes, t'annules pas. T'sais. Mais cette transaction-là est claire. Elle est claire pour la personne qui loue et elle est claire pour la personne
ben oui.
qui va utiliser le logement aussi. Là, ils se le font dire avant de réserver. Hey, c'est une politique d'annulation stricte, tu ne pourras pas annuler. Là. Voyons, sacrément, les gens ils ont donc bien de la difficulté avec les contrats.
Ben, c'est surtout que j'ai pas eu le temps de le mentionner, là, mais la raison pour laquelle ils annulent, c'est que c'est des crétins. Puis voici, non, mais voici pourquoi. Le couple aurait tenté d'annuler son séjour déjà réservé et payé pour 3 semaines et demie en réalisant que la villa se trouvait dans une banlieue extérieure de la capitale et non au centre-ville de Séoul.
Ben là...
Et on crisse parce qu'il y a une map là, dans l'application. Là. Tu peux voir c'est où sa carte, tu peux voir exactement... D'ailleurs, c'est la première fois que tu vois en général là, quand tu cliques sur le truc. Ouais, c'est où ce truc-là par rapport au centre-ville?
Fait ben, il doit y avoir beaucoup des villas au centre-ville de Séoul, de toute façon.
Ouais, ben c'est ça. Mais c'est qu'en plus, c'est que c'est leur propre erreur. Et là, ben, le bout qui me gosse dans l'article, c'est que tout écrit comme si le couple faisait affaire avec Airbnb. Ils font affaire avec quelqu'un qui loue. Arrêtez avec vos histoires.
C'est la plateforme, sacrément.
Ils écrivent ça comme si, mettons, Airbnb, c'était le Hilton ou le le Fairmont. Là. Ça n'a pas rapport, là.
Ah, oh man, ça vient lourd, ça vient lourd, ça vient lourd.
Écoute, man, c'est finalement la compagnie de gaz qui a contacté le propriétaire pour l'aviser d'une augmentation significative de son usage, craignant une fuite. Les deux individus auraient coûté 1 570 $ US, l'équivalent de plus de 2 100 $ en facture d'eau, de gaz et d'électricité. Fait que ces cinglés-là laissaient ouvert le chauffage au bout. Laissait couler l'eau puis laissait toutes les lumières allumées pour se venger de leur propre imbécilité. C'est magique. C'est magique. Faut le dire, c'est magique. Écoute,
mais t'as raison. Ce clickbait là, il est chiant pareil. Puis, tu sais, on disait des fois, on l'utilise un peu clickbait, mais c'est pas vrai. On fait pas du clickbait de même. Tu sais, c'est pas. Airbnb a rien à voir là-dedans. Ils ont utilisé Airbnb parce que les Québécois sont en crise après Airbnb, parce que le Québécois, ils ont dit qu'il fallait être en crise après Airbnb. Les Québécois, ils savent même pas pourquoi ils sont en crise après Airbnb.
Il y a une différence entre rendre tes images attrayantes et tes titres bien faites et attrayants, puis induire le monde en erreur avec des trucs genre « Vous ne devinerez jamais ce que cette influenceuse a dit. » Là, tu cliques sur le truc, il y a plein de pubs par rapport, puis finalement, tu sais jamais rien. C'est que tout le monde s'est fait avoir avec ces trucs-là. Là. Les sites à potins sont les premiers à avoir inventé ces trucs-là, puis les médias, à un moment donné, ont suivi pour une raison... c'est ça. Pour des raisons...
C'est comme la page qui est probablement la plus lue chez Québécois. Je suis persuadé que c'est le sac de chips, là. Ce qui est pathétique un peu.
Et qui est une page très pathétique, si tu veux mon humble avis. Parlant de pathétisme, ça, tu vois, tu me fais une belle transition. Je ne vous les partagerai pas tous à l'écran, là, mais hier, on avait la réaction... Bruno Marchand, lui, dans la première mouture et dans toutes les autres moutures du troisième lien, nous disait « J'attends de voir les détails, j'attends de voir les études, j'attends de voir tout et je me positionnerai après. » Là, il a lu un demi-article de journal d'une conférence de presse qui n'est pas encore faite et il salue le projet, il dit que c'est incroyable, il va se rallier à ça, c'était la chose à faire. Et il nous dit qu'il salue le courage du gouvernement. Et là, portez bien attention à ce que je vais dire, là, parce que c'est des mots que vous allez entendre. On parle maintenant de courage à tout bout de champ. Là, je suis dans la presse. Bruno Marchand salue le courage du gouvernement. Un texte de Philippe-Vincent Foisy. « Changement climatique, nous ne sommes pas prêts. » Et là, on descend à l'article. J'arrive un petit peu plus bas. Sur ce front, on peut tout de même voir la lutte au changement climatique. On peut tout de même voir certains signes positifs à l'horizon. La décision de la CAQ de faire un troisième lien uniquement au transport en commun fait partie des décisions difficiles que le gouvernement devait prendre. Reste qu'à espérer que le courage deviendra la nouvelle norme en politique.
Fait que, les journalistes sont en train de dire que Legault a retrouvé sa canisse à courage, toi.
C'est à peu près ce qu'il est en train de dire. Autre texte, puis j'en prendrai pas 50, là, mais il y en a plusieurs, c'est le dernier.
Hey, je les déteste.
Prochaine étape, la taxe kilométrique de Nathalie Collard dans la presse. La CAQ vient d'abandonner sa principale promesse électorale, celle de construire un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Et regardez le liner qui est repris ici. La taxe kilométrique est en outre la solution privilégiée par la majorité des experts en urbanisme et en planification des transports. On connaît l'allergie chronique de la CAQ à une nouvelle taxe, mais le gouvernement Legault n'a plus le choix. Il doit entreprendre la réflexion maintenant. Geneviève Guilbeault doit donc faire preuve du même courage qu'elle a démontré face au projet de troisième lien. Elle doit
As-tu convaincre... Comment ils sont pareils? Ils ont eu en partie ce qu'ils voulaient. Et ça prend pas une journée.
Ils sont sur d'autres choses.
Ils sont tout de suite rendus sur la taxe kilométrique.
Ah oui.
Next!
Elle doit convaincre son gouvernement qu'en politique, il n'y a aucune vache sacrée, même pas une nouvelle taxe. Comme si le gouvernement se gênait pour faire des nouvelles taxes. Là. Ça, c'est la joke du jour. Là. Donc, chers amis, le courage, savez-vous c'est quoi le courage? C'est de bafouer la démocratie. Faire des choses, puis Bruno Marchand, il l'a dit l'autre fois, quand il est revenu de son truc à Copenhague, d'ailleurs, monsieur, on a une planète à sauver. En ce moment, il est en France. Fait que ça va super.
Ah, il est en France?
Oui, il est parti. Il s'est envolé pour la France.
Non, il est tout en voyage, lui, sacrément.
Non, mais lui, son empreinte carbone, là, c'est la mienne si j'avais 4 vies. Ça va être beau aussi, Mané, donner des leçons à tout le monde quand tu fais le tour.
Y a-tu le temps de croiser Martine Biron dans ses voyages?
Ah, écoute, ils doivent se croiser quelque part, certains. Là. Les deux avions se croisent.
Aéroport Charles de Gaulle. Hey, salut Martine.
Hey, salut Martine, qu'est-ce que tu fais? Ah, je le sais pas, là, on m'a dit venir ici. Là. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je suis venu lutter contre les changements climatiques à Paris. Là. Je vais aller faire ça dans un beau café à Saint-Germain-des-Prés. Il l'avait dit quand il est revenu de la Scandinavie avec son délire de véloroute en plein hiver. Il avait dit, moi, je suis prêt à perdre les élections pour faire des choses qui doivent être faites parce que c'est ce que les gens me demandent. Je sais pas si vous vous rappelez de cette déclaration-là. Mm-hmm. Fait que lui, c'est, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que les gens, c'est qui? C'est tous ceux qui morpionnent autour. Ça, c'est les gens. Ça, c'est les vrais humains. Et les ploucs autour, ça, c'est la population. Et le courage, c'est de ne faire ce que ces gens-là ne veulent pas que vous fassiez. Fait que là, puis faut que je sois honnête, il y a quand même beaucoup d'articles qui soulignent le fait que la CAQ a fourré le monde de Québec, là. Mais il y en a quand même d'autres qui ont cette traque-là, que c'est vraiment courageux. Est-ce que vous êtes vraiment en train de nous dire que des politiciens qui font miroiter des projets qu'ils promettent et repromettent à tous les micros, à toutes les antennes pendant une décennie et qui flouent les citoyens, vous êtes en train de nous appeler ça du courage, vous autres? Écoute, essayez ça chez vous pour le fun. Faites des promesses à votre femme ou votre conjoint. Oh oui, chérie, on va leur refaire la salle de bain. Je te le promets qu'on va refaire la salle de bain. Je te le promets. Ouais, c'est quand? Bientôt. Là, j'arrive avec les plans. Chérie, on va refaire la salle de bain. Je te le promets. Là, vous traînez ça pendant 5, 6, 7 ans. Puis maintenant, elle dit, ouais, la salle de bain. Écoute, chérie, moi, j'ai du courage. On la refera pas. Du courage.
Tu vas manger un coup de sacoche en arrière de la tête.
Ouais, tu vas manger. Mais le coup de sacoche des citoyens, c'est quand est-ce qu'il arrive, là, pour faire écho à la réflexion que vous aviez ce matin avec Joey Aubé dans En toute liberté. Tu sais, à un moment donné, là, c'est correct là, de se baisser les culottes puis d'attendre de se faire entuber. Là. Mais ça peut se finir aussi.
D'ailleurs, Flegg a une belle caricature un matin, hein? Ah, je vais te la trouver, il faut qu'on la présente à nos...
On va la présenter aux auditeurs, aux téléspectateurs, ça va pas bien. Mais c'est dur, tu le dis souvent, c'est dur d'avoir des convictions en politique. Mais sais-tu quoi, moi, ça me fait suer de voir que des gens qui sont opposés, qui étaient opposés au projet... Ah, regarde, c'est incroyable.
J'adore Flegg.
Mais ça dit tout. Tout ce que tu as à savoir est là. Il manque juste la main de certains politiciens après le tramway pour la rentrer dans le derrière de l'électeur. C'est carrément ça. Là. Mais tu sais, moi, j'en reviens pas que des gens... Tu peux être opposé à tous les projets dans la vie, là, mais que tu justifies des détournements de démocratie, moi, ça me scandalise. Tu sais, demain matin, là, Valérie Plante, elle se présente aux élections, puis elle dit « Écoutez, j'ai un projet, je vais faire telle affaire. » Moi, je trouve que le projet, c'est fou. Là. Mais, parfait, les gens de Montréal votent pour elle à 50%. 55%.
Just do it.
Si elle arrive après 3 semaines, puis elle dit « Savez-vous quoi? Finalement, j'ai du courage, je le ferai pas. » Je vais dénoncer son affaire. Parce que à un moment donné, ça n'a pas de sens, cette Christine Manie-là, de tout le temps flouer les citoyens. Après, puis, ça vient donner des leçons de démo. Écoute.
Là, il prouve courageux, mais quand c'était le temps du budget, la CAQ s'est fait télire en disant qu'elle allait avoir des baisses d'impôts. Le budget s'en allait. Les journalistes ont tout fait pour qu'il ne le fasse pas. Puis ils disaient que c'est le temps d'agir avec courage et de refuser les baisses d'impôts, blablabla. Bla, bla. Ils ne l'ont pas fait, évidemment, puis ça a été dénoncé par la classe médiatique. Pourquoi, sur certains sujets, la CAQ décide d'aller avec les journalistes, puis sur d'autres sujets, il décide d'aller contre les journalistes, je ne le comprends pas. Mais chose qui est sûre, c'est que c'est pas mal plus courageux de tenir tête à ces astifies d'activistes-là.
Ben, c'est ça.
D'aller du bord de la population que de faire le contraire.
Le vrai courage, ça aurait été de le faire, cette crise de projet-là, puis de se tenir debout devant tous les petits chroniqueurs, les petits climato-anxieux.
Mais y a-tu autre chose derrière ça, Frank?
Ben, tu le dis en privé, c'est une histoire de subvention du fédéral. Ils se sont informés, puis le fédéral leur a dit « Garde, s'il y a des chars qui passent là-dedans, on ne vous donne pas une crise de scène. »
Moi, je pense qu'on va avoir d'ici une semaine ou deux, là. C'est un peu spéculation, ce que je vous dis, j'ai aucune information qui me dit ça. Mais mon guess, d'ici très peu de temps, vous allez avoir une conférence de presse avec le fédéral qui dit qu'il finance le projet. Puis parce que de mémoire, le troisième lien, le financement fédéral, il n'était pas cané. Là.
Non, il n'était pas cané.
Fait que c'est tout ça, le petit niaisage.
Oh, ouais. Écoute, j'ai écrit le 30 mars 2022 sur Patreon un texte qui s'appelle encore « La nouvelle monarchie », dans lequel j'expliquais que maintenant, au nom de l'environnement, on pouvait bafouer la démocratie, on pouvait faire le contraire de ce que les gens ont voté pour, puis ça dérangeait personne. Et je donnais quelques exemples. GNL Québec, où les sondages régionaux montraient même un appui jusqu'à 85 % des gens de Saguenay. Mais le député du coin, là, je vous lis un bout du texte, le député du coin, Sylvain Aka Quick-aux-Fraises-Godreau, a tout fait pour le faire dérailler. Avec l'appui, il va sans dire, des sempiternels militants écologistes et fort peu solidaires. Étant maintenant entendu que la fonction du député est de représenter les intérêts de la terre contre ceux des citoyens, le principal intéressé s'est dit très fier de sa position. Les élus sont rendus qu'ils sont fiers d'aller à l'encontre de ce que la population veut.
Ah, mais à quelle population? La population locale, elle voulait le projet. Godreau est allé contre la population locale. Par contre, la population de Montréal ne voulait pas le projet. On écoute toujours la population de Montréal au détriment des régions.
Les médias de Montréal. Parce que moi, je voyais passer des commentaires hier, là, puis la majorité des gens, dont ceux qui nous écoutent, qui viennent de la région de Montréal, ils ont tous le même commentaire. On s'en calisse de votre tunnel.
Mais oui, avec raison.
Ce qui est là. Mais pouvez-vous le dire à vos médias, s'il vous plaît? C'est juste ce bout-là qui n'ont pas compris. Écoute ce que j'écrivais à ce moment-là sur le troisième lien. Les citoyens de Québec et de Lévis, deux villes reliées par un éventuel lien, sont majoritairement en faveur de ce projet. Ils ont d'ailleurs élu la CAQ sur cette promesse. Pourtant, l'ancien maire Labeaume s'est rapidement dit contre. L'actuel maire Marchand semble tout aussi contre. QS est contre. Les libéraux sont contre, alors que c'est eux qui ont initié le projet. Le PQ est contre et même la CAQ commence à nous dire qu'ils vont rapetisser le projet, limiter la circulation des voitures. Bref, tout le contraire de ce que les gens veulent. Le tramway, probablement une des pires fraudes de l'histoire du Québec. Ce projet est arrivé sur un plateau d'argent, ou plutôt comme un cheveu sur la soupe, gracieuseté du Parti libéral, alors que le maire de Québec avait maintes et maintes fois exprimé son désaccord envers un tel projet, avant de se convertir magiquement devant la montagne de millions promis. L'actuel maire de Québec, sachant le projet impopulaire, à peine 40 % d'appui, s'est fait élire en promettant de l'amender, de le modifier parce qu'il, le projet, ne se ferait pas sans le monde. Quelques mois après son élection, le discours labeaumien refait surface. Vous aurez le tramway, que ça vous plaise ou non, parce que l'Antarctique fond.
T'as écrit ça en quelle date, ça?
J'ai écrit ça le 30 mars
2022. Nostradamus.
Et je vous lis juste la conclusion. N'est-ce pas fabuleux tout de même d'avoir ce nouveau monarque, ce nouveau souverain abstrait que le climat, l'environnement? Qui ne rêverait pas de pouvoir invoquer une telle excuse pour justifier de mettre son veto sur la démocratie? Après tout, tout le monde est pour la tarte aux pommes. Qui osera aller contre le veto du nouveau monarque? Vous n'aimez pas la terre? Vous voulez laisser un monde dévasté aux générations futures. Non, j'aime simplement la démocratie.
C'est zéro courage, là.
Non, laissez-moi tranquille avec le courage, là, c'est boire.
Le fédéral fuck tout, le chien, sacrément. Christy que je t'ai écœuré d'avoir Justin Trudeau à la tête de ce pays-là. Sérieux, là, il fuck tout. Puis c'est pas en votant à bloc qu'on va régler notre problème.
Hey, parlant de fucker tout, parlons un peu de PCU, Yann.
Hey.
Quel dossier incroyable de ce média neutre et indépendant. Il y a un point positif que personne n'a soulevé. Quand Pierre Poilievre va attaquer la Banque du Canada, ils ont changé complètement de discours, puis là, ils sont retournés sur la bonne traque. Là, Radio-Canada, ils se font brasser. Chris, ils ont les meilleurs articles de leur vie sur le site. Je ne sais pas si c'est un hasard. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Mais c'est drôle, hein, quand des gens, on remet un peu en question leur intégrité, tout ça, ils ont tendance à se corriger aussi. S'il n'y a pas personne qui souligne l'impact positif de ça, non, ben regarde-moi, je vais le faire. PCU réclamé à tort. Des Canadiens dénoncent l'insistance du gouvernement fédéral à leur réclamer à tort des milliers de dollars en PCU alors que ces montants ont déjà été remboursés.
Hey, ça, faut le faire, là.
Du harcèlement inacceptable décrit par l'opposition.
Puis là, gardez une chose en tête. Le fisc a des pouvoirs qui est incroyable. À peu près tout ce que vous faites au niveau de la justice dans votre vie, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Avec le fisc, gardez la chose suivante en tête, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire.
Non, écoute bien ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Lance Pierre Tanguay en montrant une pile de papier sur sa table de salon. Malgré son calme apparent, on sent une pointe de frustration. Tous les deux mois depuis un an, Pierre Tanguay reçoit un avis de remboursement du gouvernement lui demandant de rembourser la prestation canadienne d'urgence perçue en trop durant la pandémie. Sauf que l'avis en question est erroné. M. Tanguay n'a jamais reçu de PCU. En fait, il n'a jamais encaissé son chèque. Il l'a même retourné par la poste, ce que le gouvernement lui confirme depuis 2 ans. Mais les lettres de recouvrement continuent d'arriver chez lui à intervalles réguliers. Je commençais à stresser, à m'inquiéter, à me faire du sang de cochon. J'aime ça quand mes comptes sont à jour et là, il y a clairement une erreur. Pourtant, M. Tanguay pensait avoir agi en bon citoyen. Au début de la pandémie, il a reçu à la fois un chèque d'assurance-emploi et un chèque de PCU pour un arrêt de travail qui n'a duré que 2 semaines. Je me suis dit, la PCU, je l'ai reçue en trop, ça doit être une erreur. Je vais juste leur remettre le chèque. Affaire réglée.
Il a fait la pire affaire que tu peux faire avec ces fonctionnaires-là. Parce que eux autres s'attendent à ce que tant... Puis c'est pas une critique envers le monsieur, comprenez-moi bien. Mm-hmm. Eux autres s'attendent que t'encaisses le chèque. Fait que comme ça, quand ils te le réclament, tu le rembourses. Puis tout ça, ça, c'est ce que tout le monde fait. Fait que ce que tout le monde fait, ils sont habitués de dealer avec. Quelqu'un qui dit, « Hey, je devrais pas avoir ce chèque-là. Je prends le chèque et je leur retourne. » Asti, il a tout fait fucker le patent.
Non, non, non.
La procédure 38A2Z4Y, là, elle pouvait pas s'appliquer dans son cas. Le fonctionnaire qui a reçu le chèque était fourré, il ne savait pas quoi faire avec. Il l'a déchiqueté, puis il n'a pas corrigé le système, rien. Quand tu fais quelque chose avec les fonctionnaires du fisc qui sortent un petit peu de l'ordinaire, là, à ce prix, ils sont mêlés dans le lacet pour un Christi de temps. Puis ça marche par département. Le recouvrement ne parle pas au service à clientèle, puis toutes ces affaires-là. Fait que tu te fais dire des affaires à une place, personne ne veut être. Veut arriver puis vraiment avoir la réponse définitive. Il reste tout le temps un peu vague, un peu flou. Finalement, tu te rends compte que c'est la job d'un autre département, et ainsi de suite. Écoute, c'est capoté. Que ce soit fédéral ou provincial, c'est le bordel dans les deux places. C'est le bordel dans les deux places. Quand le chiffre ne fonctionne pas, ils sont tout mêlés. Mais c'est toujours de ta faute.
Chaque fois qu'il contacte l'ARC, on lui demande d'être patient. C'est toujours la même réponse. Attendez, ça va se régler. Attendre quoi? Je n'ai pas envie que les mesures disciplinaires augmentent. C'est un peu frustrant. Pierre Tanguay n'est pas le seul à vivre cette situation. Maude et Corinne Roy sont jumelles. Les deux jeunes femmes ont reçu de la PCU par erreur en 2020. Elles ont encaissé le chèque. L'été dernier, elles ont remboursé le gouvernement par l'entremise de leur institution bancaire. Le mois suivant, elles ont quand même reçu une demande de recouvrement par la poste. Les filles étaient stressées, raconte leur mère. Elles avaient peur de devoir payer en double. C'est gros, le gouvernement, d'un coup qui a perdu notre argent. L'incertitude et l'angoisse ont duré 9 mois. J'essayais de les rassurer. On a la preuve que les paiements ont été faits, relate Mme Lapointe, mère des jumelles. Malgré tout, les avis de recouvrement ne cessent pas. Pour éclaircir la situation, Maud entame alors une partie de ping-pong avec le gouvernement. Chaque personne à qui elle parle lui donnait un numéro de téléphone de la personne avec qui elle venait de parler juste avant. Bref, ça tourne en rond. Après 5 jours de démarche à parler avec 5 personnes différentes, le mystère est élucidé. Le remboursement de PCU a été effectué au mauvais ministère. La situation promet le gouvernement est sur le point de se régler.
Mm-hmm.
On est tombé dans un crack du système. Un agent du gouvernement nous a dit « Vous n'êtes pas les seuls, il y en a beaucoup. » On a même dû créer une procédure spéciale à l'interne pour gérer des cas comme ça.
C'est la 78Y4B-3.
Écoute, c'est capoté, là. C'est
procédure spéciale. Capoté. Chris, t'es obligé d'avoir une procédure pour te servir de ta tête, sacrément. Pas moyen d'avoir du jugement dans ces départements-là. C'est hallucinant. Puis le fisc, là, c'est intimidant pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens sont salariés. Ils n'ont pas à dealer avec le fisc d'une manière très fréquente. Le fisc, pour eux autres, c'est le remboursement d'impôts qu'ils ont à la fin de l'année, ou la cotisation fiscale qu'ils ont à la fin de l'année, puis c'est tout.
Ou t'appelles pour avoir le Christine numéro parce que ton compte est gelé, parce que ça fait 3 ans que tu t'es pas connecté dessus.
Exact. Ça, c'est la relation normale des citoyens avec le fisc. Ce qui est arrivé avec la PCU, puis les remboursements de PCU, c'est que là, les gens ont à dealer avec les fonctionnaires. D'habitude, il y a à peu près juste les entrepreneurs puis les travailleurs autonomes qui sont jamais que c'était débile-là. Mais là, tout le monde, ils sont pognés pour dealer avec eux autres, puis ils se rendent compte qu'ils sont surchargés, parce que ne sont pas efficaces. Ils sont embourbés dans leur télétravail. Ils sont embourbés dans leur grève également, là, présentement, les fonctionnaires fédéraux.
Oui.
Vous avez vu ce qui s'est passé au passeport, ainsi de suite. Quand tu as à dealer avec ces fonctionnaires-là puis qu'ils sont mêlés dans le lacet, il n'y a rien qui avance. C'est à faute de personne et tout prend du temps. Tout prend du temps et tout fonctionne aussi par la poste. Là. Parce que tu as beau parler à quelqu'un au téléphone, tu dis « OK, fait que là, c'est réglé. Ouais, vous allez avoir éventuellement un avis de confirmation que c'est réglé. » Mais là, ils rentrent par la poste, cet avis de confirmation-là, un genre de 2-3 semaines après, si ce n'est pas un mois après. Parce que ton dossier, là, le gars, il ne l'a pas réglé. Il l'a pogné, il a pris des notes, puis il a crissé sa pile.
Mais écoute, c'est, selon l'ARC, c'est la faute du monde. Une distinction peu connue du grand public et qui entraîne de la confusion. Les particuliers doivent toujours s'assurer d'envoyer leur remboursement au ministère qui a émis la prestation. Sylvie Branch, agence de parce que la fois, c'est que le comment je pourrais dire ça?
As-tu déjà navigué ces sites du gouvernement? Fédéraux, surtout. Honnêtement, le provincial est un petit peu moins pire, mais le gouvernement fédéral...
Ah, c'est n'importe quoi. C'est un site de 1990.
Essayez de savoir à qui je dois envoyer mes patentes. Là. Ouais. C'est tout le temps difficile.
Tu sais quoi le problème? C'est qu'au début, la PCU a été versée par deux ministères différents.
Oui, parce que ça avait changé. Ils ont changé le ministère qui s'en occupait en cours de...
Au début, c'était l'ARC, puis après ça, c'est devenu Service Canada.
Exact.
Et là, les gens, tu peux pas leur blâmer... Eux, ils reçoivent des avis de recouvrement. Tout le monde connaît l'ARC. Service Canada, je ne savais même pas c'était quoi.
Tu n'y es pas que l'ARC. Non.
Fait que les gens renvoyaient leurs trucs à l'ARC, ce qui est normal, ce qui est la logique même. Là, ça
Receiver l'air... General. Ouais. Encaisse mon chèque, sac moi à paix.
Mais ça a l'air que c'est la faute du monde. La main gauche ne semble pas parler à la main droite. Ils mettent la faute sur les citoyens. C'est inacceptable, s'insurge le député conservateur Luc Berthol. Son bureau de circonscription dans Mégantic a reçu des centaines d'appels de gens qui ont remboursé leur PCU, mais qui reçoivent toujours des avis de recouvrement du gouvernement. C'est énorme pour le même dossier, assure-t-il. Les gens se disent « Hey, j'ai envoyé 2000$ au gouvernement, mais on me réclame encore de l'argent. » Les gens sont inquiets. Le gouvernement, selon lui, semble dépassé par la situation et est incapable de suivre le rythme des réclamations et ça va s'empirer avec la grève.
Puis il y a des gens qui vont paniquer, Frank. Ils ont payé le 2000$. Puis là, ils reçoivent un autre avis de recouvrement, puis là, ils capotent, puis ils disent « Ben là, je vais le payer, puis ils vont s'en rendre compte au pire, puis ils vont me donner mon argent. » Vous ne reverrez pas votre argent.
Non, non, c'est ça.
Faites pas ça, vous ne reverrez pas votre argent.
Des gens vulnérables ont fait des sacrifices pour être en mesure de repayer un 2000 et ils se font encore demander. Le gouvernement continue de les harceler, dit Nikki Aston, députée néo-démocrate de Churchill Askey. C'est un exemple classique de la main gauche qui ne semble pas parler à la main droite, François Boileau, ombudsman des contribuables. Pour bien des gens, 2000, c'est beaucoup d'argent, poursuit-il. Ça crée un stress énorme pour les gens pour mettre de la nourriture sur la table, payer son loyer ou faire avancer un paiement pour une nouvelle maison. L'ombudsman des contribuables invite les gens qui se sentent dépassés ou floués à contacter son bureau pour voir ce qu'on peut faire pour les aider. Un recours auquel songe notamment Pierre Tanguay. Qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois quand le dossier sera pas réglé? Quelles seront les conséquences? Est-ce que j'aurai un huissier à ma porte? Je veux que ça arrête. Hey, c'est... Tu sais, puis il y a des gens avec les reins plus solides, tu sais, qui sont comme habitués de dealer avec ces trucs-là, de l'expérience, tout ça. Ça les stresse pas. Ils disent quand c'est une erreur, un moment donné, ils vont comprendre. Mais il y a des gens aussi plus âgés ou des gens jeunes qui sont ou des gens qui ont des stress financiers et ils se font écœurer par ce monde-là. Sérieusement, c'est...
Ah, puis,
Chris, lâche tes vacances sur ton île de donateur à la Fondation Trudeau, là, puis viens si t'occuper de ta sou. Là.
Puis les gens, le fisc, là, la journée qui est entêté puis qui te court après, là, il y a des outils à sa disposition qui sont juste incroyables. Saisis sur la paix. Ton remboursement d'impôt, il peut te saisir aussi. Tu sais, je veux dire, c'est une mauvaise créance comme telle. Puis même si tu fais faillite éventuellement, la
c'est
créance du fisc...
Oui, ouais.
Ouais, puis les premiers à s'en payer, puis la créance du fisc reste après la faillite des fois. Fait que t'es vraiment dans une position où est-ce que tu dis avoir des problèmes avec le fisc dans la tête de tout le monde, c'est la pire affaire qui peut t'arriver dans sa terre. Là. Te faire faussement accuser d'un acte criminel, mon guess, là, c'est que t'es moins stressé quasiment que de te faire faussement accuser par le fisc. Parce que le fils, comme je disais, dans leur tête à eux autres, est coupable jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est totalement le contraire de notre système de justice. Où est-ce que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire?
Non, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. C'est capoté, là. Ça ne s'améliorera pas avec...
Il n'y a aucune empathie des politiciens, aucune empathie des gens qui travaillent au service à la clientèle du fisc. T'es toujours le crotté dans leur tête. T'es toujours le crotté.
Impossibilité d'obtenir un passeport, centre d'appel saturé aux impôts, accumulation cauchemardesque de demandes de visa, les conséquences de la grève générale des fonctionnaires fédéraux ont frappé les contribuables partout au pays dès les premières heures de la journée mercredi. Partout, les citoyens sont heurtés à des portes closes devant les bureaux fédéraux, en particulier ceux de Passeport Canada, qui n'offrent plus de services qu'à ceux qui ont un motif humanitaire de voyager.
Hey, mais ce Passeport Canada, il devait être encore dans le backlog en plus, là. Ils ne sont pas revenus à un état de service normal. Hey, c'était plus de 17 semaines à avoir un passeport, alors que traditionnellement, c'était 5. Était beaucoup trop long, là.
Sans augmentation de salaire depuis 2021, les syndiqués de l'AFPC réclament une hausse de 13,5% pour 2021 à 2023, alors que la plus récente offre du gouvernement est de 9,25%. Et là, évidemment, selon Justin Trudeau, c'est de la faute de l'opposition qui n'entérine pas assez vite ses affaires.
Lui, là, ça
crée. Chris, t'as une coalition occulte avec l'autre, là. Ça va aller, là. Arrangez-vous avec vos shit.
Il n'y a pas d'opposition, là. T'as l'NPD dans ta poche en arrière. Arrête, là. Non, enough with that shit, là.
Arrêtez.
C'est quoi, là? On est misogyne pour dire des affaires de même, là? Je suis raciste, moi, là, d'avoir dit que le gouverneur fédéral est mêlé dans ses lacets. Je suis raciste, là. C'est parce que c'est le même qui se défend, Justin Trudeau, là, quand on dit des affaires contre lui.
Oui.
T'es misogyne, t'es raciste, hein?
T'es contre l'avortement.
Habituellement, c'est xénophobe aussi.
Ouais, c'est ça. Exact. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoute, on va passer à la partie Patreon avec quand même d'autres sujets à jaser. Il y a un conflit qui a éclaté au Soudan, dans la région de Khartoum. On n'a pas vu beaucoup de drapeaux du Soudan. Il y a Mélanie Joly, qui n'a pas encore été dépêchée sur place. Fait que ça, ça a l'air tranquille de ce côté-là.
D'ailleurs, peu importe la plateforme où est-ce que vous êtes aujourd'hui, faites un petit effort. Si vous êtes sur Spotify, on s'abonne pour être sûr d'y avoir tout le temps. Sur YouTube, on s'abonne également. Sur Facebook, prenez le temps de vous abonner si vous êtes là. Les deux derniers jours, on vous a mis des vidéos à la suite. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Dites-nous ce que vous avez pensé de ça, d'avoir pris des vidéos du matin et de vous les mettre. Si on l'avait fait aujourd'hui, ça aurait été probablement le billet du prof Caron qui a été excellent hier soir.
Ouais.
Des fois, le prof Caron, il passe juste avant le live du mercredi soir. Fait que si vous voulez vraiment de quoi de bon à écouter là, après le live gratuit qu'on vient de faire, allez voir le billet du prof Caron hier soir qui est excellent. Puis nous autres, on continue sur Patreon avec d'autres sujets, bien évidemment.
Yes, on a bien des affaires encore, dont un appartement très weird à Montréal.